17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, merci de nous rejoindre dans ce grand témoin spécial consacré au conflit du Proche-Orient, à la guerre israélo-palestinienne, en compagnie de Patrick Le Yarrick. Merci Patrick d'être là.
Bonjour.
Vous avez été grand patron de l'Humanité, là vous en êtes toujours éditorialiste, et puis vous vous occupez aussi d'une revue sur la biodiversité qui s'occupe de la Terre, donc on en discutera, mais on va d'abord passer l'essentiel de cette émission sur le conflit du Proche-Orient. Alors, de façon pudique, beaucoup de gens disent la guerre israélo-arabe, la guerre... jamais, on entend très très peu dire la guerre israélo-palestinienne. En fait, c'est une guerre israélo-palestinienne.
Ben, c'est le refus du gouvernement israélien, des gouvernements israéliens successifs, d'appliquer le droit international qui prévoit qu'il y a un État d'Israël, certes, mais il y a un État palestinien qui aurait dû être construit depuis 1948.
À l'origine, c'est une guerre territoriale, c'est une histoire de territoire, et il semblerait que ce soit devenu un conflit religieux.
Non, ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit de territoire, comme vous dites, mais c'est un conflit qui a à voir avec le non-respect d'à peu près 400 résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et c'est un conflit qui oppose deux peuples. C'est-à-dire il y a un État qui colonise le territoire d'un potentiel autre État et qui expulse le peuple palestinien des endroits où il devrait pouvoir vivre. Vole ses terres, vole ses maisons en permanence. À Jérusalem-Est, c'est tous les jours, depuis maintenant de nombreuses années. Vole l'eau. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est de là que naît les frustrations que nous connaissons aujourd'hui, qui se sont amplifiées encore avec l'entrée de fascistes au gouvernement israélien.
Oui, alors il semblerait que les religieux, les intégristes religieux juifs, ont pris possession de l'État israélien, quoi. Ils ont pénétré toutes les structures de l'État, et aujourd'hui, le gouvernement israélien est complètement dirigé par ces religieux.
C'est possible, mais le débat ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que des gouvernements d'obédience un peu différente, avec des premiers ministres différents, des ministres de la Défense et de la Sécurité différents, ont quand même poursuivi un projet qui est le projet du Grand Israël au détriment du peuple palestinien qui est aujourd'hui doit vivre quasiment dans des bantoustans où on a séparé Gaza de la Cisjordanie, il n'y a plus de continuité territoriale, on a mis un mur, il y a des routes réservées aux Palestiniens et d'autres routes réservées aux colons israéliens, et le capitalisme international, le capitalisme occidental, participe de cette colonisation en le finançant et en installant des bases dans les colonies pour produire.
À l'origine, la Cisjordanie devait être une continuité territoriale. Il n'y avait absolument pas de colonie. Mahmoud Abbas étant le président de l'autorité palestinienne, et aux yeux du monde entier, la colonisation s'est constituée et on continue à coloniser en Cisjordanie, alors que ce devrait être le pays, la Palestine, quoi.
Tout à fait, le Cisjordanie et Gaza, c'est-à-dire aujourd'hui, en plus de la séparation d'avec Gaza, il y a un projet de séparation avec Jérusalem-Est, c'est-à-dire on est en train, les pouvoirs israéliens, avec la complicité des Européens et des Américains, des dirigeants nord-américains, sont en train de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien précisément, puisque il n'y aurait plus de continuité territoriale, il n'y aurait pas d'État viable. Or, cette question, aujourd'hui, elle saute à la figure du monde entier, des dirigeants du monde entier, à la faveur du drame que nous avons connu le 7 octobre, des crimes qui ont été perpétrés par le Hamas, et il faut bien revenir à ce débat-là aujourd'hui. Si on ne revient pas à ce débat, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de solution. Il faut quand même bien se rendre compte que dans cet endroit-là, il y a des Palestiniens qui, sur leur propre terre, vivent dans des camps de réfugiés. Il y a des réfugiés de l'extérieur et il y a des réfugiés à l'intérieur. Pourquoi il y a des camps de réfugiés ? Parce que peu à peu, les dirigeants israéliens ont grignoté le territoire qui devait revenir aux Palestiniens, les ont expulsés et sont dans des endroits qu'on appelle des camps. Et il y a des générations aujourd'hui, plusieurs générations de Palestiniens qui vivent dans ces camps de réfugiés. C'est pour ça que même le débat autour de ce qu'on a appelé le droit au retour s'est posé, mais il continuera de se poser.
Alors, vous parliez à l'instant de Jérusalem-Est. Aujourd'hui, c'est une enclave. Les gens qui habitent, les Palestiniens qui habitent Jérusalem-Est, n'ont ni un passeport israélien, ni un passeport palestinien. Ils ont simplement une carte de résidence. Ce sont des résidents de Jérusalem-Est. Et donc, ils n'ont pas de pays, quoi. Il faut qu'ils fassent des pieds et des mains pour pouvoir sortir. Ils sont dans une prison à ciel ouvert.
C'est ça. Ils ont cette. Et encore. Il y a différentes cartes. Les Israéliens donnent aux Palestiniens différentes cartes. Et selon la couleur, on a le droit de se déplacer à tel ou tel endroit. Et c'est vrai que une partie des citoyens de Jérusalem-Est aujourd'hui, sous la férule du pouvoir et de l'armée israélienne, se trouve dans une situation où certains ont de la famille à Ramallah et ne peuvent pas aller à Ramallah. D'autres à Jénine, à Naplouse, ils ne peuvent pas y aller. Ils sont interdits de sortir de cet endroit qui devient, oui, une quasi enclave. Avec l'objectif évidemment de les sortir de là, parce que ils ne seront pas reconnus comme citoyens israéliens, même si Jérusalem-Est devient totalement israélienne, comme c'est leur objectif.
Alors, il y a une idée qui est dans l'air, c'est que qui rapproche des États-Unis, puisque Israël est très proche des États-Unis, hein, et vice-versa, à tel point que certains disent que c'est le 51e État des États-Unis, que c'est la 51e étoile. Il semblerait que l'idée les Américains ont exterminé les Indiens, et aujourd'hui, les Israéliens sont un peu dans la même psychologie. D'ailleurs, c'est ce que Elias Sambar, qui est ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, démontre dans son livre qui s'appelle « La figure du Palestinien ». Il raconte comment le génie de Theodor Herzl, qui est le fondateur du sionisme, a mis en avant cette idée que il fallait exterminer les Palestiniens comme les Américains ont exterminé les Indiens, et mentalement les Américains seraient proches des Israéliens justement en vertu de cette façon d'avoir occupé un pays, colonisé et exterminé ses premiers habitants. Vous souscrivez à cette idée ?
C'est-à-dire que Israël est la pointe avancée de l'Occident capitaliste, particulièrement des États-Unis, au Proche et au Moyen-Orient, dans l'objectif d'avoir un grand Israël pour un nouveau Proche et Moyen-Orient sous la férule de ce même pays, du capitalisme nord-américain occidental. Une des questions, par exemple, qui était posée par ce qu'on a appelé les accords d'Abraham visaient à normaliser des relations entre certains pays arabes, des pays arabes et Israël, et c'est l'administration Trump qui avait fait cela, mais en excluant totalement les Palestiniens. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ce qu'il y a derrière ça, c'est la possibilité pour les multinationales du Nord, les multinationales et les banques européennes et américaines, d'ailleurs dans une relation conflictuelle, de générer plus de profits en élargissant leur sphère de domination. C'est pour ça que les Américains investissent tant dans Israël. Ils donnent 3,5 milliards de dollars chaque année pour l'armée israélienne.
Et là, ils ont une enveloppe de 14 milliards.
Et voilà, maintenant, ils ramènent une nouvelle enveloppe de 14 milliards. Ça n'a pas d'autre objectif. Évidemment, moi, je suis pour la sécurité d'Israël, mais ça n'a pas d'autre objectif que l'objectif de domination et de barrer toute route à un processus qui permettrait la création de deux États.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, Patrick Loyaric, on parlait de l'Occident, hein, des grandes puissances qui soutiennent Israël. C'est quoi? C'est de nouveau une guerre de croisade, c'est une guerre de Jérusalem, c'est une croisade de l'Occident contre l'islam, contre les pays musulmans, c'est quoi ça?
Non, moi j'emploierais pas ce mot-là, c'est que c'est dans un contexte mondial qui est totalement bouleversé depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire l'Occident capitaliste, ça va être demain, en production mondiale, ça va faire à peu près, d'ici après 2030, 20% des richesses produites dans le monde. Et ce qu'on appelle le Sud global, ça va être la moitié, avec une majorité de la population dans le Sud global. Et aujourd'hui, après les échecs nord-américains dans leur guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye avec la France notamment, il y a cette tentative toujours d'expansionnisme au service de leur propre capital, de leur propre capitaliste, mais dans une conflictualité avec d'autres, parce que il y a d'autres capitalismes qui se trouvent aussi dans le Sud global. Mais ce Sud global, il y a deux choses qu'il n'accepte plus. C'est l'arme du dollar qui est comme arme de domination dans les échanges, et c'est l'utilisation d'un outil militaire qui s'appelle l'OTAN et qui peut déclencher d'un jour à l'autre n'importe quelle guerre là où ça agrée aux puissances capitalistes du Nord. Et donc, je crois qu'on se situe un peu là-dedans, avec un mépris total pour l'existence d'un certain nombre de peuples, particulièrement le peuple palestinien, auquel il faut ajouter la thèse développée hier par Bush, mais qui revient aujourd'hui pour faire accepter cet état de fait, selon lequel il y aurait une guerre entre le bien et le mal, il y aurait une guerre de civilisation. Moi, je n'y crois pas du tout. Il y a une guerre de domination d'une fraction des sociétés dominantes sur ce qu'ils considèrent comme leur précaré, et malheureusement le monde arabe, une partie du monde arabe est considérée comme leur précaré, mais ce monde arabe aujourd'hui se rebiffe, il n'accepte pas cela parce que il sait ce qui peut leur advenir après ce qui s'est passé notamment en Irak mais aussi en Afghanistan avec le désastre qu'on est en train de connaître pour les populations, mais aussi en termes géopolitiques.
Alors, il y a un argument massu qui est répété à l'envi par les États-Unis, la France, l'Europe, l'Angleterre, etc. Israël est une grande démocratie, c'est le seul pays démocratique de la région, démocratie, démocratie. Or, Israël n'a pas de constitution, Israël fonctionne avec des lois fondamentales issues de la Torah. Israël vient de faire une réforme judiciaire dans laquelle elle a envoyé balader la Cour suprême, qui était le dernier maillon d'une pseudo-régulation en faveur de temps en temps d'un conflit israélo-palestinien. Et Israël, l'appareil d'État, a complètement été investi par les extrémistes religieux israéliens. En quoi, aujourd'hui, Israël est une démocratie ?
Oh ben, la thèse de ceux qui défendent ça et uniquement ça, c'est qu'il y a des élections. Mais il est difficile.
Il y a aussi des élections en Russie, en Iran, en Égypte, il y a aussi des élections.
Tout à fait. Mais il est difficile de se prétendre une démocratie avancée, comme on le dit, tout en voulant annexer des terres qui sont à côté de son pays et expulser les populations qui y sont. Il est difficile de se prévaloir d'être une démocratie quand on tend plutôt vers la théocratie, quand des gens aujourd'hui vont coloniser les collines en Cisjordanie, en expulsant ici les Bédouins, d'autres à d'autres endroits des paysans palestiniens, à d'autres endroits des populations, des travailleurs, des ouvriers, et manu militari, sans aucune raison, au nom d'aucune loi sauf de celles qu'ils décident eux-mêmes, en infraction totale avec les lois internationales. Donc cette thèse selon laquelle on aurait là affaire à une démocratie est difficilement défendable. Il y a certes des élections, mais elle ne peut pas se réclamer d'une démocratie dès lors qu'elle écrase un autre peuple et dès lors qu'on crée en son sein un système qui est maintenant, et c'est démontré par une multitude de rapports, par des organisations israéliennes elles-mêmes, par des juristes israéliens, par des anciens dirigeants du Mossad et de l'armée israélienne, qui devient un système d'apartheid.
Alors comment expliquer que toutes les résolutions de l'ONU ne sont pas exécutées par Israël, et donc qu'il y a aucune poursuite n'est faite, que la CPI n'a aucune fonction, aucun rôle vis-à-vis d'Israël, et que finalement, les systèmes de régulation et de sanctions internationales qui sont valables pour la Russie, pour l'Iran, en d'autres temps pour l'Iran, pour la Libye, etc., pour des pays africains, comment expliquer que, dans ce cas-là, ces structures internationales censées réguler la multilatéralité depuis la fin de la guerre, soient les mains ligotées, impossible de poursuivre Israël.
Ben, ça devient désormais une lourde question. C'est que, d'une part, il y a, dans l'application du droit international, trop souvent, et c'est ça qui rebelle les peuples du Sud, deux poids, deux mesures. Ça, c'est une première question. Deuxièmement, il y a celle de la capacité de l'Organisation des Nations Unies à faire respecter le droit international. C'est-à-dire, à partir du moment où les Américains se sont affranchis de ce droit en Irak et ailleurs, mais prenons le cas de l'Irak, eh bien, il n'y a pas de raison que d'autres ne le font pas. C'est ce sur quoi on bute, notamment avec l'agression militaire de la Russie sur l'Ukraine. Et quant au tribunal pénal international, ni les États-Unis ni Israël ne le reconnaissent. Or, il y a des rapports de plusieurs rapports même de l'Organisation des Nations Unies, de grands juristes, qui ont qualifié les interventions de Israël de crimes de guerre, des interventions à Gaza, les bombardements à Gaza. Mais la colonisation est aussi un crime de guerre. Or, il n'est jamais sanctionné par rien, et c'est ce laisser-faire, cette sorte de complicité silencieuse qui a permis à Israël qui lui a permis de faire ce qu'elle a voulu et qui nous amène à ce que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, la représentation du peuple palestinien, on a Mahmoud Abbas qui représente l'autorité palestinienne, qui représente le Fatah, qui est une organisation démocratique dans laquelle on retrouve des gens, des musulmans, des laïcs, des juifs, des agnostiques. Donc on oublie trop souvent de dire que la structure, le Fatah, qui représente la Palestine, est une structure démocratique. On a aussi à Gaza le Hamas qui a été élu, donc qui représente aussi, qui gère Gaza. Et on a aussi des prisonniers comme Marwan Barghouti, qui est en prison maintenant, je crois, depuis 40 ans, qui est le Nelson Mandela palestinien. Donc on a des responsables, mais il semblerait que Israël a plutôt favorisé le Hamas et que on a marginalisé, humilié Mahmoud Abbas sans arrêt en colonisant la Cisjordanie, en le mettant de côté, en ne le considérant pas. Et peut-être aussi Marwan Barghouti pourrait aussi peut-être faire le consensus et sortir comme Nelson Mandela peut-être le président de la future Palestine.
Ben, toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites à Gaza comme en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, montre que la personnalité la plus populaire aujourd'hui chez les Palestiniens, c'est Marwan Barghouti. Or, les Israéliens qui ne veulent pas d'une solution à deux États, qui ne veulent pas de négociations, maintiennent sciemment Marwan Barghouti en prison, de telle sorte que on puisse dire, ils puissent dire avec les Américains et les Européens, même au sein du gouvernement français, qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Mais il pourrait y avoir un interlocuteur si, comme vous le suggérez, on n'avait pas écrasé l'autorité palestinienne, l'organisation de libération de la Palestine, si on n'avait pas divisé l'organisation de libération de la Palestine comme on l'a fait, d'une part, et d'autre part, si on crée les conditions d'élection législative, c'est-à-dire réélire le Conseil législatif palestinien et un président de l'autorité palestinienne. Et de ce point de vue, Marwan Barghouti est depuis longtemps une solution. Donc la question de la libération de la Palestine et la question de la solution à deux États, elle est aussi liée à celle de la libération de Marwan Barghouti. La campagne pour sa libération devrait se poursuivre et s'amplifier à mon sens.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, Patrick Le Yarrick, fondateur, enfin, ancien directeur de l'Humanité, aujourd'hui éditorialiste et qui dirige la revue La Terre sur la biodiversité. On a aujourd'hui l'ensemble du monde arabe qui manifeste, les populations manifestent. Hein, on l'a vu au Maroc, on l'a vu en Algérie, on le voit aussi en Iran, on le voit au Liban, on le voit partout. L'ensemble des pays soutiennent la cause palestinienne. Hein, il n'y a qu'en France où on interdit de temps en temps une manif pro-palestinienne. Il semblerait que les États, les gouvernements prennent des décisions, mais qu'ils sont désavoués par leurs opinions. Et là, aujourd'hui, on assiste à un bombardement par Israël. À la fois, ils ont détruit l'aéroport de Damas et d'Alep en Syrie. Ils ont bombardé le sud Liban. Ils ont bombardé aussi à la frontière égyptienne. Donc, mais ça, à l'insu de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde arabe ne peut rien faire devant les bombardements israéliens?
Ben, l'espoir, c'est un peu ce que vous avez dans votre question. C'est que le mouvement des peuples arabes est impressionnant. Si on nous avait dit ça il y a quelques semaines, on ne l'aurait pas cru. Et c'est un mouvement dont il faut bien voir le contenu. C'est-à-dire que les pays, les dirigeants des pays qui ont signé les accords d'Abraham, qui visaient à exclure la question palestinienne du débat dans le monde arabe, sont désavoués de ce fait. C'est-à-dire qu'il y a une conscience quand même de la rue, des sociétés arabes, qui est extrêmement aiguë de ce point de vue. Ce n'est pas seulement un soutien comme cela aux Palestiniens. C'est une bataille pour le respect du droit international, la dignité des peuples arabes dans leur ensemble, inclut le peuple palestinien, et la question de la solution à deux États. Tant que cette question-là ne sera pas réglée, la rue arabe sera humiliée. Mais la nouveauté, vous avez vu que en Allemagne, à Londres, aux États-Unis, En France, ce qui commence en train de se passer, c'est aussi des manifestations extrêmement puissantes. Il y a aujourd'hui un débat très soutenu dans les campus américains, et il y a la mise en mouvement des jeunes juifs aux États-Unis qui ne partagent pas l'option des dirigeants nord-américains et des dirigeants de Tel Aviv aujourd'hui, et qui disent certes, nous ne supportons pas, nous sommes extrêmement malheureux de la brutalité des crimes qu'a commis le Hamas. Évidemment, nous ne supportons pas cette barbarie, mais en même temps, ils discutent des causes qui nous ont amenés là et poussent pour qu'il y ait deux États, poussent pour qu'il y ait un processus démocratique de construction de deux États. Et donc ce mouvement mondial qui est en train de se développer, en tout cas dans l'Occident et dans le monde arabe, cette jonction qui est en train de se produire, est extrêmement intéressante pour nous. C'est une nouveauté politique qu'il faut prendre en compte et que tous les dirigeants devront prendre en compte forcément.
Oui, parce que d'autre côté, on a l'impression que l'entreprise meurtrière du Hamas le 7 octobre, qui a été menée en territoire israélien, on a l'impression que la guerre israélo-palestinienne commence le 7 octobre. Alors que ça fait des décennies oui. qu'il y a la guerre, finalement.
Oui.
Et donc, ces massacres viennent rappeler au monde entier l'urgence de la souffrance du peuple palestinien qui est dépossédé de sa culture, de ses terres et qu'on extermine à petit feu. Alors, beaucoup prennent cette date du 7 octobre comme un 11 septembre aux États-Unis, comme ce sont des pogroms, ce sont des choses. Comment vous définissez cette journée du 7 octobre, vous ? C'est une étape dans la guerre de libération du peuple palestinien ou alors c'est quelque chose de différent ?
C'est compliqué à expliciter ainsi. Le Hamas a fait des crimes. Le Hamas a tué, déchiqueté des civils et malheureusement des populations qui ne soutenaient pas forcément le gouvernement israélien. Loin de là, c'est plutôt des populations progressistes. Elle retient en otage aujourd'hui des familles, des enfants. Ils ont tué des enfants. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une méthode de lutte. Donc, ce sont quand même des crimes atroces de guerre, voire contre l'humanité. Des crimes contre l'humanité, les experts juridiques jugeront. Mais on est obligé, on ne peut pas analyser cela sans le mettre dans un temps long, c'est-à-dire un blocus à Gaza pour 2 200 000 habitants, l'érection d'un mur, l'accélération de la colonisation depuis un certain nombre de mois, des bombardements de Gaza chaque semaine. Avant cela, il y avait des bombardements de Gaza chaque semaine. Ça fait 75 ans que cela continue. Donc, c'est un choc de la pire des manières, ça c'est certain, mais en même temps, ça oblige aujourd'hui à reconsidérer l'ensemble de ces questions. Aujourd'hui, par exemple, le débat en France s'est modifié au fil des jours, et même le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale cette semaine a connu, je trouve, une inflexion du gouvernement qui a dû parler de deux États et qui n'a plus parlé de son soutien inconditionnel au gouvernement israélien. Ils ont un soutien au peuple israélien, ce qui peut s'entendre, mais c'est un discours un peu différent, qui est le résultat des mouvements qui sont en train de se développer, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Mais je rappelle, c'est la pire des façons. On ne peut pas accepter les crimes barbares qui ont été perpétrés.
Et vous parlez de la France, on a assisté à des prises de position complètement abracadabrantes, pour reprendre l'expression de Jacques Chirac. On voit Gérald Darmanin qui accuse Benzema d'être affilié aux Frères musulmans parce qu'il fait simplement un tweet de soutien au peuple palestinien. On retrouve un leader de la CGT simplement parce qu'il y a un tract de soutien à une manif au peuple palestinien aussi qui voit débarquer des gendarmes. Une journaliste de France 24 aussi qui est aussi sommée d'arrêter ses tweets et qui est interpellée. Une palestinienne qui fait des conférences depuis 10-20 ans qu'on interdit de conférences. L'Union des Juifs pour la Paix, pareil. On a l'impression que, je veux dire, que les autorités françaises perdent leur boussole et que là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas au-delà des joutes oratoires avec la France insoumise ou avec d'autres personnalités. Daniel Obono, par exemple, qui a parlé de résistance du peuple palestinien. On a l'impression que là, il y a quelque chose qu'on ne comprenait plus au niveau des gouvernements français.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a un double phénomène, c'est que il y a des gens en France au plus haut niveau que le sort des Palestiniens et des enfants israéliens, des femmes israéliennes, importe peu. Ce qui leur importe, c'est la prochaine élection présidentielle et ils font de la politique politicienne sur le sort des Israéliens comme des Palestiniens, ce qui est totalement abject. Ça, c'est une première question. Seconde question, on tente de différentes manières faisant la police de la pensée, en dirigeant des tribunaux contre des forces démocratiques, contre des associations, contre des personnalités, Benzema, mais on a critiqué aussi Omar Sy, on a critiqué Mbappé parce que lui, par contre, il ne disait rien, ainsi de suite. On menace les associations d'aide aux réfugiés à la faveur de l'abominable acte terroriste d'Arras, de ne plus recevoir de crédit parce qu'il ne faut plus accueillir de réfugiés. Donc on fait une confusion. Mais ça, c'est pour faire basculer, tenter de faire basculer l'opinion sur une seule ligne, et cette seule ligne serait au fond ce qu'ils ont commencé à dire au début, le soutien inconditionnel au gouvernement israélien, au pouvoir israélien, qui comprend des ministres d'extrême droite. D'ailleurs, la connivence entre les gens du gouvernement de la droite française et de l'extrême droite française est en train de sauter aux yeux et de manière dramatique pour tout le monde, pour tout démocrate. Et donc, ce basculement, il vise aussi à isoler le sort qui est fait aux Palestiniens. Ils font d'une pierre deux coups, mais c'est, je répète, c'est assez abject.
Merci Patrick Loyarik. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est aujourd'hui en Israël. Il doit aller voir Mahmoud Abbas. Il doit bien sûr s'occuper des otages. Il doit rencontrer les plus hautes autorités israéliennes et Mahmoud Abbas. On espère qu'il reviendra avec des choses positives à tous les niveaux. Et on aura l'occasion de se revoir, bien sûr, parce que c'est une émission très courte. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce conflit israélo-palestinien et sur cette quête légitime du peuple palestinien pour être restitué dans ses droits et dans ses territoires et dans sa dignité. On se retrouvera très bientôt, et surtout pour parler aussi de la revue La Terre qu'on n'a pas pu aborder. Merci et à très bientôt.
D'accord, merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.